Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jusqu'alors, André Graff est connu pour passer au petit matin ou au soleil couchant en ballon au-dessus des toits et villages alsaciens. En 2004, il voyage sur l'île de Sumba, dans l'est indonésien. Alors qu'il était pilote de montgolfière, il fait le choix de tout quitter pour devenir puisatier. Aujourd'hui, il vit, et cela depuis 9 ans, en Indonésie, à Sumba. Humain avant d'être humanitaire, il dirige une association pour permettre à la population d'accéder à l'eau. Rencontre avec André, un personnage inspirant.
Il y a un âge pour avoir une croyance ?
Ah oui, je crois que c'est l'âge de déraison. Je me demande en fait s'il y a plus de gens qui deviennent incroyants ou athées en prenant de l'âge et de la bouteille et de la transformation de croyance ou de croyeuserie, ou si c'est le contraire. Moi j'appelle ça assez volontiers les croyeuseries. On peut commencer là-dessus, parce qu'une croyeuserie, c'est en fait l'adhésion à des formes de système auxquelles les gens doivent croire pour qu'elles fonctionnent. Et moi, je vis en plein dedans, parce que je vis dans des milieux chamaniques, où appeler culte des ancêtres, magie noire, enfin toutes ces choses liées au chamanisme. Et effectivement, je me rends compte que plus les gens y croient, mieux ça fonctionne. Moi qui n'y crois pas, évidemment, ça ne fonctionne pas le moins du monde. Mais je le sais. Et je sais que si j'y croyais, ça fonctionnerait merveilleusement. Donc je n'ai pas beaucoup d'état d'âme par rapport à ça, si ce n'est de dire, oui, c'est l'adhérence à des systèmes qui fait que les gens deviennent croyeurs ou pas. D'où le fait que j'appelle ça des croyeuseries.
Mais ta croyance à toi, ce serait quoi? Si tu devais rentrer dans une de ces cases, tu choisirais quoi?
De savoir que j'ai les deux pieds sur terre et puis la tête un petit peu dans le ciel et qu'à partir de là, il peut y avoir des impulses tellement différents selon les endroits où je me trouve. D'où le fait que selon l'endroit où on est dans le monde, les vibrations vont être différentes, bien entendu. Les croyeuseries aussi vont être différentes, mais aussi les paysages, tous les aspects de la vie.
Donc tu as l'air de dire que quand tu crois en quelque chose, ça devient ta réalité. Donc est-ce qu'on peut dire que les pensées sont génératrices de la réalité dans laquelle on vit?
Mais je me demande même si c'est pas complètement, comment dit-on, à double sens. Je veux dire, les pensées sont génératrices et le milieu dans lequel on vit est générateur de pensées. C'est tout à fait à double sens. Hein. Donc, ça va dans les deux sens.
Donc il vaut mieux penser positif.
Ah ça c'est clair qu'il vaut mieux penser positif, parce autrement on est mal barré de nos jours.
Ouais. Ça marche, hein, c'est qui a inventé ça, la méthode, enfin inventé, on n'a rien inventé, mais la méthode Coué c'est ça, c'est je veux bien, tout va bien, et quand on commence à être positif, on n'a rien à cette vibration du positivisme autour de nous, et finalement on se rend compte que la vie est merveilleuse.
Oui, enfin il n'y a pas que le père Coué, il y a Ivan Illich bien avant, Think Positive, etc. Il y a des écoles de pensée, je crois, depuis la nuit des temps, et puis depuis les penseurs grecs, et même bien avant, qui ont mis le doigt sur le fait que la vie est tout simplement beaucoup plus agréable à vivre, et beaucoup plus joyeuse et plus sympa quand on pense positif, oui.
Alors toi André, est-ce que tu es joyeux et heureux? Est-ce que tu te sens aujourd'hui heureux?
Alors non, pas suffisamment, parce que c'est toujours un peu prétentieux de dire qu'on est heureux, que tout est beau, que tout va bien, etc. Ça m'empêche pas d'être dans le think positif. Donc j'ai le sourire, et c'est parfois un sourire même un petit peu coquin, un petit peu narquois. Puisque je me rends compte de réalités autour de moi qui sont déplaisantes et qui sont inquiétantes et qui effectivement font pas forcément plaisir dans le fort intérieur, mais j'arrive quand même petit à petit à me détacher de ces insatisfactions et de ces tout petits malheurs qui sont des malheurs de considération, hein, par le fait simplement d'une posture peut-être plus philosophique et intérieure.
Qu'est-ce que c'est le bonheur? Comment tu le définirais, être heureux?
Je peux pas le définir, parce que je crois que c'est pour chacun quelque chose de différent et quelque chose vers quoi on peut aller. Je crois que c'est rarement acquis, c'est rarement acté. Le bonheur est une, la recherche du bonheur peut être une démarche. Je ne crois pas qu'il puisse s'acquérir de façon entière.
Après, tu as toute cette façon, là, les bouquins ou la philosophie de l'instant présent. Je suis là, présent dans 5 instants, donc je mange un carré de chocolat parce que j'ai le désir de manger du chocolat et je peux retirer du bonheur et de la satisfaction à travers ça. Est-ce que ce serait peut-être ça, finalement, de vivre chaque instant intensément comme c'était le dernier ?
Ah ben, il y a une part de chemin vers le bonheur dans cette posture. Et je la connais pour la pratiquer de temps en temps. Mais on peut pas être sur... Enfin, pour ce qui me concerne, je ne peux pas être sur cette posture de façon permanente parce que je pourrais pas, à ce moment-là, faire tout ce que je fais parce que je mène aussi une vie active et, en l'occurrence, je mène une vie active vers les gens parmi lesquels j'habite là-bas. Et être actif, c'est effectivement aussi se dire parfois, ben voilà, je vais m'arrêter d'être tout seul, content et heureux pour ma propre pomme. Je vais aussi essayer de faire accéder à un petit peu plus de bonheur à d'autres.
Voilà, donc on y arrive, c'est de ça en fait qu'on va parler maintenant. Je vais te rencontrer, André, j'ai envie de savoir qui tu es. Donc avant de parler d'André aujourd'hui, on peut peut-être parler aussi d'André hier, et peut-être le mieux placé pour parler de lui, c'est toi.
Oui, alors hier, c'est un itinéraire qui va évidemment à... allez, je prends mon âge et je le donne, c'est 57 ans. Donc ça part d'une petite vallée vosgienne dans cette région bénie des dieux qu'est l'Alsace. Je crois que c'est Louis XIV qui disait que c'était le jardin du bon Dieu. Et puis il y en a bien d'autres, bien plus tard, qui ne sont pas forcément des gens que je tiens en estime particulière. Ils ont fait ce qu'ils ont fait dans leur temps, mais enfin... Albert Schweitzer qui disait que l'Alsacien était un bipède ou un mammifère privilégié, puisqu'il avait goûté à la fois à la mamelle de la culture latine et à la mamelle de la culture germanique. Et il voyait dans... la structure mentale qu'il avait lui et qui lui avait été donnée par le fait de cette double culturation, il y voyait un privilège et qui tenait effectivement en honneur en parlant de cette manière-là. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié l'humour de cette philosophie.
Donc Münster, Vallée de Münster, tu es né ici, tu as grandi en Alsace, continue.
Voilà, alors j'ai grandi en Alsace et puis j'ai fait ensuite mes années à Strasbourg pour la partie estudiantine de l'existence qui a été assez courte parce que je suis même pas arrivé jusqu'en DOG, que ça se passait en biologie à l'université Louis Pasteur à Strasbourg. Et puis j'ai tout plaqué pour l'action politique. Et l'action politique, c'était l'action contre les centrales nucléaires. Alors j'ai perdu beaucoup de mes idéaux, de mes chevaux de bataille, et je ne suis plus le Don Quichotte que j'étais entouré de moulins à vent. Mais il me reste une conviction, c'est que le nucléaire est dangereux et qu'il faudrait arrêter tout ça. Et que le nucléaire n'existait pas et qu'il existe maintenant, qu'il a démontré sur les dernières décades, qui sont précisément les périodes dans lesquelles j'ai grandi, que chaque fois qu'il arrivait quelque chose, bah, c'était des accidents qui engageaient l'avenir pour des très nombreuses générations à venir. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des accidents de ce type qui se développent. Ce seul argument-là me vaut, je crois, la conviction de dire vrai quand je dis « faudrait arrêter ça ».
Et la légitimité d'être contre.
Et la légitimité d'être contre le nucléaire, absolument.
Ouais. J'aime bien aussi, je crois que c'est, il y en a peut-être plusieurs qui le disent, mais Jean-Marie Paltz qui disait que finalement l'espèce la plus dangereuse pour elle-même sur Terre, ça reste l'espèce humaine.
Oui, et puis même l'inventeur de l'atome, je crois, en avait parlé. Il avait été suffisamment... Il s'est un peu mordu les doigts d'avoir divulgué la façon de fabriquer et puis finalement de voir que ça a été utilisé pour une bombe qui est tristement célèbre. Pour revenir à mon CV, ben, ça a été un des points de suspension assez nombreux dans mon curriculum vitae, parce qu'il y a eu ensuite plein d'activités qui se sont suivies par petits segments, plus ou moins liés les uns aux autres. J'ai été ensuite sur les années du retour à la Terre. C'était les 70s ou la fin des 70s, etc. Et puis j'ai fait des stages agricoles et une formation professionnelle d'agriculture en formation pour adultes, bien sûr. Tout ça dans l'idée de me faire un jour agriculteur et de vivre en agriculture autarcique, biologique, biodynamique, etc. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai divergé encore pour plein de petits métiers qui ont été intéressants pour certains, qui étaient à la fois dans la régie de cinéma, dans le spectacle, dans les expositions, dans les voyages et autres. Et puis, très incidemment aussi, c'était en 1982, j'ai rencontré un des grands amours de ma vie qui a été l'aéronautique et j'ai passé pratiquement un quart de siècle à faire du ballon, donc de la montgolfière. Et c'était à la veille d'un départ pour les États-Unis, je me souviens, je devais aller faire du théâtre au Nouveau-Mexique. Et en arrivant dans le hall de cet aéroport, je vois une énorme calico, Albuquerque, the world's capital of ballooning, donc la capitale mondiale de l'aérostation, alors que j'avais fait un vol en montgolfière 4-5 jours avant, ici dans la vallée d'Orbe, et ça m'avait tapé dans la tête, je m'étais dit que je ferais ça un jour. Et je tombe dans cet aéroport complètement par hasard. Je reste quelques jours chez les gens qui devaient m'accueillir faire du théâtre. Je me suis rendu compte assez vite et heureusement que c'était une bande de scientologues, chose qui n'était pas forcément inintéressante, mais pas forcément faite pour me plaire non plus. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis retrouvé donc à Albuquerque à téléphoner à tous les constructeurs de montgolfières en disant « Voilà, je suis le petit Frenchie, je suis à disposition. Moi, je veux apprendre à construire un ballon parce que j'aurai jamais de quoi me le payer, mais je suis là pour ça. » Et j'ai fait tout le bottin téléphonique jusqu'à trouver un constructeur de ballon qui m'embauche. Et c'est ainsi qu'a commencé un quart de siècle d'aéronautique.
Des sauts de puce, comme tu dis. Pourquoi est-ce que tu as eu ce besoin de changement régulièrement dans ta vie, dans ton parcours, dans ton itinéraire?
Le besoin, je ne sais pas si c'était un besoin de changement, c'était surtout à chaque fois, à chaque grand saut de puce que l'on peut faire, c'est de la disponibilité. C'est de se donner des moments où l'on peut effectivement se dire, on peut faire autre chose, on peut très bien continuer à faire ce que l'on fait, mais on peut aussi se dire que si on faisait autre chose, ce serait peut-être pas plus mal, et peut-être plus excitant, et peut-être plus intéressant, et peut-être plus adapté aussi à mes possibilités, physiques, matérielles, intellectuelles, à mes attentes, à tout niveau.
Et on arrive en 2004 avec donc l'envie de changement, encore une fois. Première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était par rapport à des photos. On m'a dit, tiens, il y a un gars dans la vallée de Munster qui est parti avec des piles de photos pour les redonner aux personnes qu'il avait photographiées lors de ses voyages.
Alors, 2004, je m'étais pris une maladie dont souffrent beaucoup de gens ici, qui est une maladie de Lyme, qui attaque le système nerveux par une bactérie qui s'appelle la Borrelie et qui risque très simplement de tuer les gens ou de les rendre malades et le cas échéant paralysés jusqu'à la fin de leur jour. Il y a malheureusement des gens très jeunes aussi qui sont en chaise roulante jusqu'à la fin de leur vie, ici en Alsace, entre autres. Cette maladie avait pu être diagnostiquée et traitée à temps, et heureusement, et à ce moment-là, j'hésitais un petit peu à partir en Amérique latine ou à partir en Asie, puisque c'est les deux endroits dont j'avais gardé des beaux souvenirs. L'Asie, j'y avais fait un petit stopover en 1990 sur un retour d'Australie, et puis j'avais été en l'an 2000 faire une virée en Amérique latine, et les deux destinations me semblaient clairement attirantes. Et puis finalement, les raisons circonstancielles ont fait que j'ai choisi l'Asie, et je crois que j'ai bien fait, parce que ça correspond davantage à une région où il y a encore possibilité de to slow down, comme on dit, de se calmer, d'aller cool, alors que l'Amérique latine est quand même une région du monde où les choses sont assez nerveuses et les gens aussi assez nerveux, un sang un peu plus chaud que les Asiatiques. Donc ça a été un voyage en Asie en 2004 avec entre autres une virée en barcasse dans les petites îles de la Sonde, et c'est le moment où j'ai été vraiment conquis par la beauté de cette région et j'y suis toujours. Alors effectivement, pour venir à l'histoire des photos, j'ai fait à ce moment-là énormément de photos. J'avais été frustré d'un quart de siècle de montgolfière, parce qu'on peut pas piloter des montgolfières et faire des photos en même temps. Je crois que ça tombe sous le sens. En l'occurrence, tous les gens que je photographiais, donc dans les petites îles de la Sonde en particulier, je leur demandais leur adresse pour leur envoyer un jour les photos. Pour éviter ce triste chapardage de butin que font tous les photographes à vouloir emmener la photo d'un tel qu'ils vont vendre et puis ils vont s'en faire je ne sais quoi, etc. Et pour que ce soit un petit peu plus admissible dans mon trip, tous les gens que je voyais, je faisais au moins l'effort d'aller les approcher. La plupart du temps, c'était avec des guides parce que moi-même, je ne parlais pas encore la langue. Et donc, pour leur demander leur adresse de manière à pouvoir leur renvoyer la photo. En revenant fin 2004, juste avant le tsunami qui a frappé quelques jours après mon retour, qui a frappé l'Indonésie de l'Ouest, hein. C'est très loin de l'endroit où j'avais été. Mais j'ai commencé à développer ces photos et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas les envoyer, puisque beaucoup d'endroits où j'avais été, il n'y avait pas de possibilité de boîte aux lettres ou de facteurs, parce que même le concept des postes n'existe pas, parce que c'est tellement encore dans des façons de vivre, comme on dit chez nous, primitives, alors qu'en fait c'est peut-être beaucoup plus évolué à d'autres égards, mais en tout cas technologiquement et sur le plan de la communication consensuelle, c'est peut-être effectivement le mot primitif qui serait adapté. Donc je me suis rendu compte que les photos n'arriveraient jamais, et le seul moyen de les faire arriver, puisque j'avais du temps et que j'étais disponible, que ma petite société avait été cédée, je me suis dit, voilà, je repars là-bas. Et puis voilà, j'y suis toujours. Donc c'est il y a 10 ans.
Ce qui fait peut-être rêver quand on t'écoute, ou ce qui peut interpeller, c'est que tu réalises peut-être le rêve de beaucoup de personnes, à savoir changer de vie. Tu t'es donné les moyens, tu t'es offert la possibilité de complètement changer.
Oui, alors donner les moyens, c'est pas si simple que ça, parce que les moyens, évidemment, ils découlent d'une volonté, et il faut que la volonté soit vraiment totale et intérieure et engagée pour arriver à trouver les moyens. On peut pas comme ça se dire à moins d'être milliardaire, évidemment, de changer de vie d'un claquement de doigts. Tout ça, ça engage forcément des moyens matériels. Intellectuellement, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, ça suppose évidemment et avant tout la disponibilité. Ça, c'est clair. On fera jamais de jump ou de modification à son itinéraire si on n'est pas disponible pour le faire. Donc, ça veut dire aussi, sur plan relationnel, des gens qui ont une famille, qui ont une implication professionnelle, qui ont un environnement, un entre-gens qui les oblige. Tout simplement, c'est pas possible, parce que c'est beaucoup trop inscrit, c'est beaucoup trop prenant, c'est beaucoup trop engageant à moyen ou à long terme pour certains. Ils peuvent pas. Donc, évidemment, quand on a le privilège d'une relative solitude, comme c'était mon cas à l'époque, oui, on peut davantage le faire. Mais alors après, pour ce qui me concerne, la première étape a été d'aller m'installer là-bas, mais m'installer tout simplement avec mon sac à dos et zéro moyen. Alors, autant dire, zéro moyen, c'est aussi se mettre parmi les pauvres pour vivre comme les pauvres. Et en l'occurrence, il n'y a rien de christique là-dedans, hein, mais c'était pour moi certainement l'aventure la plus enrichissante de ma vie. C'est de voir effectivement à quel point les gens qui n'ont rien arrivent à se débrouiller, et puis parfois avec un humour relativement sympa. Là aussi, j'ai loin de moi l'idée de les encenser, de dire qu'ils iraient t'offrir tout ce que tu as, y compris leur père et mère et compagnie. Ça, c'est des visions d'occidentaux qui sont pas dangereuses. Mais il est clair aussi qu'au bout de 2 ans, j'ai commencé à ressentir le besoin de ne pas continuer de stagner avec eux. Dans cette espèce de jus de la pauvreté, de la misère, de la non-culture, de la non-hygiène, de la non-bonne alimentation, etc. Et puis j'ai eu envie moi-même de refaire un bout de chemin vers des formes de vie, entre guillemets, évoluées que j'avais connues. Donc un peu plus de culture, la possibilité de lire, la possibilité de manger mieux, la possibilité d'aller aux toilettes plutôt que d'aller chier dans la jungle, la possibilité bien entendu aussi d'aimer, la possibilité oui, de voyager un petit peu régionalement, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il a fallu construire petit à petit, et il a fallu les construire d'autant plus que c'est devenu nécessaire. Et la nécessité, c'était de dire, bon, ben, moi j'ai envie d'évoluer, mais j'ai envie d'évoluer avec vous, donc on va faire des projets ensemble. Et de là est né effectivement ce qui est devenu mon activité de maintenant, et je suis devenu puisatier, donc j'étais aéronaute, et maintenant je suis puisatier, je fais des puits dans les îles de la Sonde, et depuis quelques années, je développe même un concept plus intéressant encore, c'est qu'à partir des puits que je réalise, on emmène l'eau sur les sommets des montagnes pour la distribuer aux gens par gravitation et pour l'emmener sur les montagnes plutôt que de le faire avec du gasoil comme ça a été fait longtemps. Et ben je le fais avec des panneaux solaires parce que ça permet aux gens d'être beaucoup plus autonomes. L'autonomie est beaucoup plus importante avec des panneaux solaires qu'elle ne l'est avec du gasoil. Et puis surtout, bien sûr, c'est beaucoup plus écolo.
Ça provoque un changement au sein des sociétés dans lesquelles tu vas t'immiscer, mettre en place des projets. Comment est-ce que ce changement, comment est-ce que ce bouleversement, peut-être même culturel, est perçu par les populations locales? Est-ce que ça correspond à une demande, une attente, un besoin? Est-ce que tu te sens accueilli, menacé? Enfin voilà, tu es en train de transformer quand même à travers les actions que tu fais. Tu parlais du missionnaire qui va pour vouloir aider. Comment tu te positionnes? Comment ce changement est perçu?
Alors oui, le missionnaire qui y allait, il était évidemment investi d'une mission tout autre que celle d'aller... Alors, faut être prudent aussi. Il était investi d'une mission première qui était celle d'implanter une forme de croyeuserie dans des régions dont les croyeuseries étaient différentes. Et pour ce faire, il procédait par des améliorations de la vie qui faisait passer pour étant les meilleurs possibles. On en pensera ce qu'on voudra. Moi, c'est pas mon trip, et c'est effectivement davantage dans une démarche participative et de consultation d'abord que j'essaie de voir avec les gens s'ils ont envie ou pas. Donc ça a été, par exemple, pour les premiers systèmes de distribution d'eau, ça a été le plus grand des travaux, c'est la consultation des gens. Alors là, ça veut dire, ça suppose de passer des soirées, des nuits, des journées entières à discuter, de voir effectivement, à consulter. Oui. Et c'est ainsi, par exemple, que j'en suis arrivé à remarquer à quel point tous les systèmes qui sont activés au gasoil sont pernicieux, parce qu'ils ouvrent la porte à la corruption des privés, des particuliers, donc à la jalousie, donc aux guerres, et à quel point effectivement le soleil coupe l'herbe sous les pieds à ce genre de dérive. Par contre, et également, il y a toujours évidemment des individus, heureusement isolés, mais des individus qui n'apprécient pas quand les choses évoluent bien, En matière d'eau, il faut savoir que dans presque tous les pays du monde, les gens qui s'occupent d'amener l'eau, ce sont les femmes et les enfants. Très rarement, les mecs se bougent pour ce boulot qui est assez ingrat, qui suppose essentiellement de marcher, mais de marcher avec une charge généralement sur la tête. Les femmes et les enfants font ça, semble-t-il, mieux que les mecs d'un certain âge. Il se trouve qu'en Asie, en particulier, les gens sont très souvent préoccupés par une débauche et un vice qui datent de la nuit des temps, hein. Il semblerait que ça date des Chinois, et qui est le jeu pour de l'argent. Donc les gens tapent la belote, enfin, jouent aux cartes sur leur terrasse et peuvent aller jusqu'à dilapider l'intégralité de leur fortune familiale, rien qu'à jouer aux cartes et à mettre même parfois plusieurs générations dans les dettes. Évidemment, les femmes qui ont une vision généralement un tout petit peu plus logique que ça en matière d'économie, et notamment en matière d'économie familiale, n'apprécient guère ce genre de procédé. Tant que les femmes sont à la source et loin de la maison, elles ne sont pas là pour râler quand elles voient le vieux gringo flamber. Ouais. Depuis que les femmes sont à la maison et font du tissage ou s'occupent de leurs gamins, etc., quelques-uns des vieux gringos du village en sont à prétendre qu'il y a plus de morts au village parce que Amainodou, donc moi, Amainodou c'est mon nom chamanique là-bas, Amainodou a amené l'eau au village, donc c'est de sa faute parce que maintenant il y a plus de morts. Voilà. C'est effectivement dire que quand on met le petit doigt dans l'engrenage d'une modification, il faut bien se rendre compte qu'il y a plein de petites roues différentes qui vont se mettre à tourner, pas toutes dans le sens qu'on espère. C'est le résultat global de ce que va produire la modification qui importe. Et il est vrai aussi que Gaïa tourne, elle ne va pas attendre quelques populations, et puis faut pas que ce soit toujours les mêmes qui aient le plaisir de pouvoir se reposer un petit peu. Donc non, voir que des femmes de mon village viennent me voir en disant oui, elles sont heureuses parce qu'elles ont acquis une vie différente et qu'elles ont le temps aussi de se pomponner un petit peu, oui, de faire attention à leurs gamins, de se livrer à un petit peu d'activités différentes que par le passé, c'est vachement sympa.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Neuf ans à Sumba, donc 9 ans que tu es expatrié, tu vis en Indonésie. Comment est-ce qu'on retrouve des racines dans une culture tellement différente de la nôtre ? Est-ce que tu as des fois envie de revenir ici ou ta vie maintenant c'est vraiment ailleurs ?
Oui, alors là, j'ai le privilège d'avoir été là pour 6 mois. Et 6 mois en sachant que je retournais là-bas. Donc, pas nécessaire de retrouver de vraies racines. En même temps, revenir ici pour y retrouver de vraies racines, est-ce que ça serait possible compte tenu que la plante a déjà été repotée ailleurs ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand je vois les expats qui vivent à l'autre bout du monde et qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours incessants jusqu'à 3-4 fois par année, etc., ça me semble un petit peu ambigu, d'abord sur le plan du bilan carbone, parce que c'est écologiquement désastreux, mais aussi sur le plan humain et psychologique, puisque je faisais allusion à la plante qu'on dépote. Je crois qu'effectivement, une plante qui est dépotée, repotée trop de fois, et notamment trop de fois dans des espaces courts, comme un an, c'est difficile à trouver de la profondeur, et c'est difficile à s'épanouir, et c'est difficile à grandir. Donc, pour ce qui me concerne, oui, je ne sais pas où je resterai à plus long terme. Pour l'instant, ça fait 9 ans que j'y suis, et j'ai l'impression que c'est passé comme le temps d'un week-end. C'est impressionnant.
Merci André.
De rien. Merci beaucoup Alexandre. À bientôt, j'espère.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.